Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci aux infirmières, aux médecins, aux paramédicaux, à toutes celles et ceux qui, en cette période de crise sanitaire mondiale, prennent soin de la communauté, employés des commerces, des services de nettoyage, des transports. Merci à vous de faire face et de donner votre temps au service des autres, notamment de celles et de ceux qui, dans les hôpitaux, chez eux, dans les centres d'hébergement de personnes âgées, nécessitent soins et surveillance. Ces patients qui sont en train de lutter contre un nouveau virus, face auquel tant de questions restent encore sans réponse. Les malades du Covid-19 et aussi tous les autres. Car si cette crise sanitaire inédite, au-delà de sa dimension anxiogène, montre les limites de certains systèmes de santé confrontés à la saturation de certains services hospitaliers, eh bien, cette pandémie mondiale déstabilise le système de soins dans son ensemble. Il faut établir des priorités, changer certains protocoles, mais maintenir les interventions essentielles, éviter au maximum d'exposer des personnes fragiles à une contamination, empêcher la rupture dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments et réorienter certains spécialistes et soignants vers des secteurs qui manquent de ressources humaines. Cette crise sanitaire est donc loin, très loin, de mobiliser uniquement infectiologues, virologues, pneumologues ou réanimateurs, au premier rang bien sûr de la réponse, mais elle impose une nouvelle organisation à tout le monde de la santé, travailler autrement, se poser des questions aux cancérologues, gynécologues, neurologues, endocrinologues et même aux dentistes. Et nous avons choisi de leur donner la parole aujourd'hui dans Priorité Santé. Continuité de soins en période de crise sanitaire. Quel défi, quelle réponse? 4 spécialistes dans notre émission aujourd'hui. 4 médecins dont les pratiques sont bouleversées par la situation actuelle. On vous retrouve, docteur Dominique Huette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de diabétologie endocrinologie au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph et vous enseignez, docteur Huette, à l'université Paris-Descartes. Également avec nous, le docteur Nasrine Caillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue-oncologue à l'Institut Curie à Paris. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le docteur Gilles Huberfeld, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur au Collège de France. Et nous retrouverons un autre praticien de ce même hôpital de la Pitié, le professeur Vianney Descroix, chef du service d'odontologie.
Priorité santé sur RFI.
Alors, assurer le suivi des patients pris en charge en endocrinologie pour leur diabète, par exemple, continuer de diagnostiquer et de traiter les cancers. On va donc en parler avec vous à présent. Ces questions communes pour certaines d'entre elles et puis d'autres qui sont propres à chacune de ces spécialités. Alors, une première question que je vais adresser à chacun d'entre vous sur la vulnérabilité particulière face au Covid-19 quand on souffre de certaines maladies. Alors très rapidement, au début de l'épidémie, le facteur de l'âge a été pointé. On a aussi parlé de ce qu'on appelle les comorbidités. Et c'est vrai, hein, docteur Nasrine Caillet, pour les patients qui sont atteints d'un cancer, qui sont en cours de traitement, on est forcément plus fragile.
Oui, bonjour à tous. Donc, juste une petite précision, je m'appelle Nasrine Caillet. Voilà. Mais bon, c'est une anecdote. Donc, en fait, ce que vous dites est tout à fait juste, puisque les traitements de cancer ou les séquelles des traitements des cancers peuvent augmenter le risque de contamination à cause de baisse de l'immunité de ces patientes. Et s'il y a contamination, il y a un petit risque d'augmentation des formes graves chez les patients qui sont traités pour le cancer. Alors, c'est pour ça que dans les centres anticancéreux, notamment à l'Institut Curie ou dans les services d'oncologie, il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour éviter ce type de contamination chez les patientes et également sur le personnel également.
Qu'est-ce qu'il en est, docteur Dominique Huette, pour les personnes qui souffrent de diabète? Est-ce qu'il y a une ligne générale en ce qui concerne, déjà dans un premier temps, bien sûr, le risque de contamination, ou cela va dépendre de critères particuliers parce qu'il y a différents diabètes et différentes gravités, sévérités du diabète?
Alors, votre question est importante, en particulier pour tous nos auditeurs diabétiques, et nous sommes encore un petit peu juste en termes de résultats d'études. On a à notre disposition une étude chinoise qui rapportait qu'environ 20% des hospitalisations étaient des diabétiques. Sans plus de renseignements sur un diabète de type 1 ou de type 2, et environ 30% des malades en réanimation. Alors, on a affiné un tout petit peu en sachant que ces diabétiques avaient aussi d'autres comorbidités comme une insuffisance cardiaque, comme une insuffisance rénale, et avaient, dans l'immense majorité des cas, un diabète déséquilibré. Donc, le premier message, quand même, est d'essayer de rassurer le grand nombre de patients diabétiques bien équilibrés qui n'ont pas un sur-risque aussi important. Nous venons de démarrer en France une étude observationnelle sur les diabétiques qui sont hospitalisés pour voir un petit peu mieux le profil de ces patients. Nous aurons la réponse que dans 3 semaines, 1 mois. Néanmoins, le diabétique va quand même cumuler d'autres facteurs de risque. Vous avez parlé de l'insuffisance des cardiopathies, de l'insuffisance cardiaque, parfois une obésité qui a été reconnue comme un facteur de risque pour donner des insuffisances respiratoires chroniques. Et donc le déséquilibre du diabète qui en lui-même donne un état de baisse de l'immunité et donc des défenses.
Ce qui signifie, hein, une question que je vous adresse à tous les deux, quand on parle de risque accentué, s'agit-il du risque infectieux d'attraper le Covid-19 ou plutôt de développer une forme grave de la maladie? Quand on traite des cancers, Nasrine Khaled?
Alors les deux. Tout dépend à quelle période on est. Pendant le traitement, bien sûr, et il faut, en cancérologie, il faut savoir que l'immunodépression est due déjà à la maladie, mais également au traitement qu'on donne. Et cette immunodépression, c'est-à-dire une baisse de l'immunité, peut persister 6 mois après la fin des traitements. Donc les deux, effectivement, concernent ces patients.
Docteur Dominique Huette, justement, cette même question, davantage du risque du côté du risque d'attraper le virus ou plutôt de développer une forme grave?
Alors plutôt de développer une forme grave, puisque attraper le virus, entre guillemets, on sait que 60 à 80% de la population va attraper ce virus. Néanmoins, dans les formes graves, le sujet beaucoup plus fragile va donc risquer un passage en hospitalisation et éventuellement en réanimation de façon plus importante.
Alors on insiste bien sûr sur ce fait, les informations, on les a jour après jour, semaine après semaine, il faut attendre certaines études pour avoir des visions d'ensemble. Mais en tout cas, dès que ces risques ont été connus, comment cela s'est-il passé dans votre propre pratique? Est-ce que vous avez adressé des recommandations particulières à vos patients? Docteur Nasrine Khaled, on dit par exemple adapter le traitement, qu'est-ce que ça veut dire en oncologie et aussi dans le fait de voir plus ou moins ces patients?
En fait, il y a tout un bouleversement de nos pratiques, il y a une modification de structure au niveau hospitalier, c'est-à-dire que déjà, schématiquement, quand il y a des nouvelles patients, des consultations, il y a une ligne dédiée pour ces nouvelles patientes. L'examen de chaque dossier est fait par les oncologues qui appellent les patients pour savoir si cela nécessite de leur arrivée dans l'hôpital ou pas, et est-ce que c'est une urgence ou pas. Dès l'arrivée des patientes à l'hôpital, il y a tout un dispositif qui est mis en place dès l'entrée de la patiente. Il y a toute interdiction d'accompagnement, bien sûr. Dès l'entrée, il y a une prise de température. L'arrivée des patientes est complètement séparée dans un sas et chaque patiente est munie d'un masque et bien sûr avec tous les conseils du gel hydroalcoolique qu'on montait. Pour les patientes qui sont en surveillance, qui vont bien, il y a une possibilité que nous avons mis en place par téléconsultation, même si ça ne remplace pas la consultation directe, le contact avec la patiente. Cette téléconsultation marche très bien dans la mesure où on interroge la patiente, on voit comment est son état de santé, on voit ses examens, ce sont des patients qu'on connaît bien, et donc on discute du traitement, des effets secondaires éventuels, et on réitère les conseils pour éviter le Covid, et si nécessaire, bien sûr, on envoie des ordonnances aux patients. Pour les chimiothérapies qui sont en cours, il y a toute une organisation également parce qu'on se base sur le type de chimiothérapie. Il faut venir le moins souvent possible à la patiente pour éviter le risque de contamination à l'hôpital, le risque de contamination. Donc on essaie de les faire venir le moins souvent possible. Le type de chimiothérapie peuvent être modifiés selon les produits utilisés, parce que certains produits ont une des demi-vies longues dans le sang, c'est-à-dire le taux de médicaments dure pendant un certain temps dans le sang, et donc on peut différer de quelques semaines les autres injections des produits. Pour certains types de chimiothérapie, certains produits peuvent être changés, c'est-à-dire remplacés par activité bien sûr identique, par d'autres produits qui peuvent être donnés en comprimé avec la même efficacité. Et puis, il y a des immunothérapies, c'est-à-dire des traitements qui sont un peu spécifiques. Ces traitements ont une durée de vie qui sont longues, donc on pourra effectivement les espacer. Après arrive le problématique de la chirurgie, c'est-à-dire que là, les décisions se font de façon collégiale pour chaque patiente, cas par cas, et on se base sur la nature des caractéristiques de la tumeur. Il y a des tumeurs qui sont peu évolutives, là on peut reporter de quelques semaines la chirurgie, mais il y a malheureusement des tumeurs qu'il faut opérer rapidement, et là bien sûr il y a tout un dispositif de précaution qui sont prises au niveau de service de chirurgie. Pas de visite, bien entendu, pendant l'intervention, après l'intervention. Il y a des mesures qui sont très draconiennes qui sont prises. Je rappelle qu'il y a une cellule de suivi psycho-oncologique au sein de l'hôpital qui peut également être exercée à distance, parce que ce n'est pas du tout facile pour les patients de vivre cette période. Et quand la chirurgie est décalée, les patients sont bien entendu prévenus plusieurs semaines en avance, et on leur explique, mais toutes ces décisions sont prises du cas par cas de façon collégiale.
On le comprend bien, une réorganisation complète qui nécessite de pratiquement tout revoir. Docteur Dominique Huette, par exemple, on le sait, de nombreux patients diabétiques sont insulinodépendants. Ils ont besoin, on va dire, d'une dose plusieurs fois par journée. Est-ce qu'ils vous demandent, par exemple, très concrètement, s'ils doivent stocker des médicaments, soit parce qu'ils ont peur de sortir, soit parce qu'ils ont peur de manquer ?
Alors, ils ne nous demandent pas vraiment, puisque on leur a adressé nous-mêmes une information qui était d'abord l'apparition d'un décret qui disait qu'on pouvait renouveler son ordonnance jusqu'au 31 mai avec l'ancienne ordonnance, et donc on leur demandait d'avoir au minimum 15 jours à 3 semaines de traitement d'avance, en sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas de pénurie pour des médicaments antidiabétiques, que ce soit l'insuline ou les comprimés. Maintenant, pour le suivi, il a bien évidemment été obligé de s'adapter. On a fermé beaucoup de lits dans notre service de diabétologie pour en garder uniquement quelques-uns pour des urgences, car il y aura toujours des urgences diabétiques, des comas, et donc il faut s'occuper de ces patients. Par ailleurs, les consultations non urgentes de suivi des malades ont été annulées, et chaque diabétologue appelle chaque malade pour faire le point avec lui au niveau téléphonique et voir si des modifications sont nécessaires. C'est une maladie chronique, donc généralement c'est un suivi au long cours, et les médecins, comme les médecins généralistes, connaissent leurs malades, leurs caractéristiques, et donc ça s'adapte assez bien à la consultation téléphonique.
Alors on a bien compris,
Allez-y. Les diabétiques de type 1 qui sont avec des insulinodépendants, avec de multi-injections d'insuline, voire une pompe à insuline, beaucoup sont déjà suivis à distance par des objets technologiques numériques où on a régulièrement le suivi des glycémies qui arrivent automatiquement dans nos services, et on peut modifier avec eux en direct.
Un véritable bouleversement de l'organisation, des réaménagements. Docteur Nasrin Khaled, tout à l'heure, vous avez fait la liste de tous ces changements. Mais comment est-ce que ça s'est opéré? Est-ce qu'il y avait un dispositif préparatoire en cas de crise? Voilà comment on agit. Ou vous avez avancé tous ensemble à l'hôpital au jour le jour?
Non, nous avons avancé tous ensemble parce qu'au tout début, on savait pas l'ampleur de la crise, on savait pas exactement tout, on connaissait pas toutes les données. Donc c'est en fait tous ensemble, tout le personnel est sur le pont. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à bouleverser nos habitudes au service des patients, tout en protégeant les patients, mais également le personnel.
Docteur Dominique Huet, de votre côté, il y avait un dispositif, on va dire, préparatoire ou là encore, ça a été sur le tas?
Écoutez, comme c'est une vraie nouveauté pour l'ensemble des gestions sanitaires, on va dire, mondiales, il existait un plan blanc qui a été immédiatement mis en place, mais il ne permettait pas de résoudre tous les problèmes. Il faut savoir, par exemple, que dans mon hôpital, il y a plus de la moitié des lits qui ont été fermés et dédiés très rapidement pour les patients Covid. Le service de réanimation a doublé, voire triplé sa capacité. Ça veut dire qu'on a fermé quelques lits des urgences cardiologiques, on a fermé, transformé des lits de réanimation des urgences cérébrovasculaires. Bref, tout ça s'est fait à l'aide d'une cellule de crise qui se réunit une fois par jour pour modifier au jour le jour la capacité des lits d'hospitalisation dans l'hôpital. Donc rien ne pouvait être prévu de manière aussi précise. Et comme pour tout le monde, on navigue au jour le jour avec l'arrivée des malades. Un exemple, dimanche, on a eu un tout petit peu moins de malades qui sont arrivés. Là, ça recommence de nouveau. Donc vous voyez, il faut s'adapter au jour le jour.
Quand vous dites des malades, là, ce sont des malades Covid-19.
Alors c'est des malades qui sont suspectés de Covid-19, bien sûr. On a vu, comme dans les cabinets de médecins généralistes, la baisse des consultations aux urgences, où on a vu une chute de plus de 50 à 60% des patients qui venaient aux urgences. Et maintenant, plus de la moitié des patients qui viennent aux urgences sont des suspicions forte de Covid-19.
On le comprend bien parce que les personnes évitent forcément de fréquenter l'hôpital. De toute façon, il y a eu des avis en ce sens pour éviter, bien sûr, de contracter le virus. On comprend bien avec vos pathologies, il y a à la fois l'aigu, le chronique et puis après des traitements au long cours, le suivi. Certaines choses peuvent être reportées. Docteur Nasrin Khaled, tout à l'heure, vous insistiez bien sûr sur ces opérations que l'on ne peut pas reporter. On imagine, et vous avez commencé à le décrire, des mesures très particulières pour justement protéger les patientes. Comment est-ce que ça se passe au niveau justement de la transmission de l'information pour les rassurer? D'un côté, elles doivent être rassurées puisqu'elles vont être opérées, mais de l'autre, elles doivent être inquiètes à cause du risque de contamination.
Oui, c'est vrai, mais ça se passe par le dialogue. C'est pour ça qu'il y a toute une, en fait, un des services dédiés à ça, des assistantes médicales qui nous aident aussi. On appelle chaque patiente et c'est en fait, c'est un traitement et c'est des décisions collégiales, mais c'est du cas par cas, c'est-à-dire chaque cas est particulier. Et c'est par le dialogue, en expliquant à la patiente sa pathologie, ses risques ou pas, qu'on arrive à faire accepter ces mesures. Et en général, ça se passe très bien, parce qu'on garde toujours le dialogue.
Justement, ce dialogue, il est essentiel avec des femmes que vous traitez parfois sur de longues périodes, que vous suivez de près. On imagine que ça doit être quelque chose de très complexe pour une soignante comme vous, qui travaille énormément sur le lien, sur le soin, d'être privée, dans certains cas, de ses contacts, docteur Khaled.
C'est vrai. C'est ce genre de contact ne remplacera jamais les consultations en face d'une patiente. Mais bon, je pense que quand on connaît sa patiente, le dialogue se rétablit même à travers le téléphone. Et je pense qu'il y a une participation très importante des patientes également dans ces moments difficiles. Elles acceptent les contraintes et on avance ensemble.
Cette dimension essentielle, on parlait tout à l'heure du lien, du soin, la dimension psychologique, protéger ses patients en continuant de les soigner, mais aussi éviter de les faire tomber dans la psychose. Docteur Dominique Huet, voyez des gens qui sont vraiment en situation de panique?
Ah, tout à fait. Il faut savoir qu'on vit une situation extraordinairement difficile à gérer. On a un ennemi invisible et en plus cet ennemi invisible, il peut tuer. Donc ça crée obligatoirement une peur. Mais cette peur, elle est nécessaire, mais il ne faut pas que au-delà de cette peur arrive une anxiété, voire des crises de panique anxieuse. Donc c'est toute la difficulté, en sachant que on a beaucoup de mal, en particulier avec les médias où nous avons des chaînes d'information continue qui toutes les heures font appel à un nouvel expert. Moi, je n'ai jamais entendu autant d'experts parler.
Mais surtout quand c'est enchaîné avec des génériques très badoum badoum, ça met un peu de tension et même pour quelqu'un qui est, même quelqu'un qui travaille dans les médias, il y a un moment donné, il est angoissé. Hein.
Oui, tout à fait. donc on essaye de notre côté, alors par le côté d'appels téléphoniques, de faire baisser un petit peu cette tension. Mm-hmm. L'idée étant que on a nécessairement peur, c'est obligatoire, mais il ne faut pas que cette peur se transforme en panique parce mm-hmm. que si on panique, on perd les notions indispensables, essentielles, de sérieux, des mesures, car encore une fois, les mesures de confinement, de barrières, les gestes de nettoyage des mains sont les gestes essentiels et qu'on pourrait perdre en cas d'excès de panique. On a par exemple l'exemple chez nous de patients diabétiques pour lesquels on souhaite qu'ils puissent sortir encore tous les jours pour faire leur activité physique qui est nécessaire à l'équilibre du diabète. C'est pour cette raison qu'on a toléré cette sortie d'activité. Certes, c'est pour les jeunes joggeurs, mais cela pourrait éventuellement se passer de leur activité physique. Quand ils sont blessés, ils s'en passent. Par contre, on sait que les diabétiques, s'ils ne sortent plus, eh bien leur diabète va se déséquilibrer. Et s'ils se déséquilibrent, il y a une source de risque potentiel d'attraper le virus de façon plus importante que les autres. Donc il faut respecter toutes ces règles avec le sérieux, sans essayer de rentrer dans la panique.
Restez rationnel. Vous aussi, docteur Nasrine Khaled, des fois il faut trouver les mots auprès de vos patientes pour les rassurer.
Oui, il faut toujours trouver les mots. Il faut que ces dispositions qu'on prenne soient pas au détriment de la patiente. Tout ce que je vous ai dit, c'est des décisions qui sont prises de façon collégiale et qui, même le report des interventions, le changement de traitement, c'est fait si et seulement si cela ne nuit pas à la santé des patientes. Donc, une fois qu'on a expliqué tout ça, je pense que l'ensemble des patientes le comprennent très bien et j'espère qu'on va arriver bientôt à sortir de cette situation ensemble.
Merci beaucoup, docteur Nasrine Khaled, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes gynécologue-oncologue à l'Institut Curie à Paris. Docteur Dominique Huette, restez avec nous. On va tout de suite prendre une auditrice en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Et on appelle la Guinée-Conakry avec Lawaratou en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On est à votre écoute, le docteur Dominique Huette, diabétologue, vous écoute. Allez-y, Lawaratou.
Bonjour, docteur. En fait, moi, je suis à Conakry. Je suis diabétique de type 2 et je voulais avoir des renseignements par rapport au Covid et pour une maladie.
Et votre diabète, ce diabète de cette personne, il est équilibré ou non?
Bon, il n'est pas équilibré.
Vous êtes suivie par un médecin aujourd'hui, la Ouattarou?
Oui, je suis suivie par un médecin, oui.
Et est-ce que vous avez des inquiétudes particulières? Quelles sont-elles?
Bon, j'ai des inquiétudes. Je n'ai aucune information par rapport aux dispositions à prendre pour une malade par rapport au Covid et tout. C'est avant-hier, j'en parlais avec un ami et il m'a dit de faire beaucoup attention puisque j'ai beaucoup de risques d'attraper le Covid comme je suis diabétique. Donc, je voulais savoir quelles sont les précautions que je dois prendre et tout par rapport à la maladie.
Est-ce que vous suivez les mesures barrières qui ont été énoncées par les autorités maintenant de tous les pays du monde? Est-ce que vous évitez les contacts avec l'extérieur? Qu'est-ce que vous faites au quotidien d'ailleurs, vous?
Bon, je suis ingénieur génie civil et je suis tout le temps sur le terrain. Là, en fait, c'est pour cela que je m'inquiète, parce que je suis en contact avec les gens. Ici, il n'y a pas eu de confinement d'abord à Conakry, juste des mesures comme prendre le lavage des mains. Bon, nous, généralement, comme je suis dans un chantier à cause de la poussière ou autre, on utilise des masques pour se protéger et tout, donc c'est le seul suivi que je fais actuellement.
Mais par contre, vous êtes contrainte à cause de votre profession de continuer à sortir, c'est bien cela?
Oui, je suis contrainte, oui, à cause de ma profession, oui.
Alors, docteur Dominique Huette, Lawa Ratou, notre auditrice, parlait d'un diabète déséquilibré. Peut-être que vous avez des questions à lui poser à ce sujet?
Eh bien, j'aimerais, si elle connaît un petit peu le taux de sa glycémie ou de l'hémoglobine glyquée, pour avoir un petit peu le niveau du déséquilibre, parce qu'encore une fois, même si on ne doit pas faire de consultation personnelle à distance, la notion de déséquilibre peut être relative, et que parfois, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Néanmoins, je crois que c'est un moment pour faire des efforts supplémentaires, en particulier au niveau diététique, parce que la base du traitement du diabète de type 2 est diététique. Et puis deuxièmement, éventuellement rediscuter avec son médecin pour augmenter le traitement médicamenteux, si cela est possible. Mais j'aimerais savoir donc quel est à peu près son niveau de taux de sucre et l'hémoglobine glyquée, si elle est faite.
Lawa Ratou, vous avez cette donnée?
Bon, j'ai pas cette donnée sur moi parce que j'ai tous mes papiers à la maison. Là, je suis au boulot. Mais mon taux de glycémie varie entre 50 à 90 grammes par...
D'accord. Donc premièrement, le diabète n'est pas totalement équilibré, mais il n'est pas en grand déséquilibre. Pour nous, les grands déséquilibres, ce sont des glycémies au-delà de 2,50 g et une hémoglobine glyquée à 8,5%. Et c'est à partir de ces taux-là qu'on a une baisse possible de l'immunité. Donc premièrement, votre diabète est un peu déséquilibré, mais je crois que si vous resserrez un petit peu les règles diététiques, vous devriez pouvoir baisser de 0,40 à 0,50 votre niveau de glycémie. Deuxièmement, attention à la fausse sécurité du masque. Je crois qu'il est beaucoup plus important que vous trouviez sur les chantiers un point d'eau pour très régulièrement vous laver les mains, parce que c'est la mesure la plus importante pour vous protéger, vous.
Lawa Ratou, est-ce que vous faites attention à votre alimentation, justement, pour ne pas faire trop varier ce taux de glycémie?
Oui.
Donc, bien continuer et insister sur l'hygiène des mains, le conseil du docteur Dominique Huette. On vous souhaite bon courage, en tout cas, et très, très bonne journée à Conakry. Nous parlons toujours de la continuité des soins en période de crise sanitaire majeure, toujours en votre compagnie, docteur Dominique Huette, chef de service de diabétologie endocrinologie au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Deux autres spécialistes nous rejoignent à présent. On va parler neurologie avec vous, docteur Gilles Huberfeld, bonjour. Docteur Huberfeld, bonjour.
Bonjour.
Vous exercez au sein du département de neurophysiologie clinique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et avec nous également professeur Vianney Descroix, bonjour.
Bonjour Caroline.
Chef de service du service d'odontologie également au sein de cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors on le sait, on l'a dit tout à l'heure avec le docteur Calais, les règles de l'hôpital sont complètement bouleversées. Aucune visite par exemple dans les services de gériatrie, visite interdite en cas du moindre symptôme grippal, vérification de la température, visite interdite aux mineurs et puis bien sûr la mobilisation des équipes et la protection des personnels soignants. Docteur Gilles Huberfeld, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre pratique, la neurologie à l'hôpital?
Alors, dans ma pratique directe, qui est principalement de faire des examens complémentaires que sont les EEG, Il y a beaucoup d'examens réalisés en externe qui ont été annulés et qui sont reculés au moment où on va être sorti de cette pandémie. Il y a beaucoup moins de patients qui sont hospitalisés pour des conditions neurologiques aiguës et en réanimation en dehors des patients affectés par le Covid-19. Et du coup, on a nettement moins d'examens d'électroencéphalographique. Et puis après une phase de creux, on commence à se poser des questions quant à l'implication du système nerveux central dans cette infection au Covid-19. Il y a de plus en plus d'éléments qui vont en faveur d'une composante d'encéphalite, c'est-à-dire d'atteinte directe du système nerveux, et on recommence à faire plus d'électroencéphalogrammes à ces patients pour essayer de valider cette atteinte. Et pour le reste des pathologies neurologiques au sens plus large, eh bien évidemment les hospitalisations programmées ont été reportées, on a des hospitalisations aiguës qui globalement sont nettement moins abondantes, et on a une organisation pour séparer les patients suspects d'être Covid+ des autres patients.
On a effectivement parlé de neurologie quand il y a eu ces symptômes concernant l'odorat et le goût. On s'est interrogé sur la causalité.
Donc on s'interroge sur une possible atteinte directe du virus de ces éléments centraux du système nerveux. Il y a d'autres éléments. Il y a pu avoir des suspicions d'encéphalite qui ne sont pas encore très bien documentées, donc d'atteinte plus globale du cerveau par l'agent infectieux, le virus en question. Et puis, se sont posées également des questions quant à l'atteinte respiratoire qui pourrait avoir une composante centrale, c'est-à-dire cérébrale. Et puis enfin, on se demande comment il se fait que les patients qui avaient l'air à peu près équilibrés se déstabilisent aussi vite, si notamment il pourrait y avoir un défaut de perception d'anomalies respiratoires au niveau central aussi. Donc tout ça, c'est un certain nombre de questions qui restent en suspens.
Et sur lesquels les chercheurs travaillent. Comment est-ce qu'on évalue à votre niveau, dans une spécialité comme la neurologie, ce qui peut être reporté ou non? Comment est-ce qu'on fait quand on a le cahier avec les rendez-vous, les patients, plus tard et tout de suite?
Eh bien, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on a clairement un certain nombre de choses. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que si je diffère l'examen, je fais perdre une chance à ce patient d'être traité correctement, de redresser son traitement, d'initier son traitement, de modifier son traitement? Et quand la réponse est oui, je lui fais perdre une chance, on essaye d'organiser l'examen.
Alors, vous avez beaucoup de prises en charge sur la durée, bien sûr. Comment est-ce que vous assurez, justement, quand ces patients-là, vous ne les faites pas venir, hein, pour une raison ou pour une autre, ce suivi avec les patients, comment ça se passe?
Alors, il y a le suivi des examens, qui ne sont pas réalisés quand ils ne sont pas urgents, qui le seront plus tard. Et puis, il y a le suivi des consultations et des traitements. Donc, on fait un certain nombre de consultations par téléconférence. C'est assez différent pour tout le monde, mais il faut s'adapter. Et puis, on est amené également à renouveler un certain nombre d'ordonnances. Et puis là, il y a des facilités qui sont faites. Il suffit de les scanner. Les pharmaciens acceptent des prolongations, même s'il n'y a pas l'ordonnance, et ainsi de suite. Donc, on gère finalement au jour le jour, en s'attendant évidemment à ce que la crise s'arrête un jour.
Alors, ces préoccupations, elles sont internationales. Hein, comme en témoigne une auditrice de Priorité Santé, elle est au Burkina, c'est Console Weldé. Elle nous dit « Actuellement, mon père souffrant n'est pas en mesure d'aller voir son neurologue à Ouagadougou, car la ville est en quarantaine. On est obligé de se replier sur d'autres personnels soignants qui ne connaissent pas son état de santé. » C'est vrai que, docteur Gilles Huberfeld, ça peut être inquiétant pour certaines familles ou pour certains patients.
Tout à fait. Et je pense qu'une partie du tribut qu'on paiera vis-à-vis de cette pandémie, ça va être également les retards de soins des autres maladies. Restera à savoir quelle est l'étendue en fait de ce trouble.
Et ce sera difficile à évaluer forcément, puisque ces personnes n'auront pas été testées. Mais c'est ce qui est fait, je m'excuse de dire ça en des termes aussi brutaux, mais c'est ce qui est fait avec les chiffres des organismes officiels de démographie et d'épidémiologie. On va voir une surmortalité par rapport à la même période. Professeur Vianney Descroix, on imagine que dans votre spécialité, les soins des dents, des gencives, il y a forcément des préoccupations, des précautions très particulières.
Alors pour effectivement prendre en charge aujourd'hui les urgences que l'on voit, effectivement il faut qu'on soit particulièrement vigilant avec tous les risques de contamination. Donc les chirurgiens dentistes doivent s'habiller de façon tout à fait spécifique avec les fameux masques FFP2 à chaque fois qu'ils vont faire des soins dans la bouche des gens. Oui.
Alors quels soins sont reportés? Et lesquels, professeur Vianney Descroix, sont maintenus?
Alors, aucun soin ne sont maintenus. On va assurer maintenant, depuis 15 jours, en tout cas en France, les urgences douloureuses, les urgences infectieuses et traumatiques. Et on en voit malheureusement de plus en plus depuis le début du confinement.
Professeur Vianney-Descroix, je ne sais pas si vous êtes éloigné de votre téléphone, peut-être rapprochez-vous si c'est possible. Est-ce que ça dégage du temps à certaines de vos équipes, à certains personnels, pour aller prêter main forte aux services en tension, professeur Descroix ?
Alors oui, tous les chirurgiens dentistes, notamment en Île-de-France, qui ont fermé, comme tous les chirurgiens dentistes en France ont fermé leur cabinet, beaucoup se sont mobilisés pour venir aider les équipes au niveau de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ils sont portés volontaires pour faire du travail d'infirmier, du travail dans les hôpitaux et venir en secours et en renfort des équipes soignantes.
Parce qu'on a énormément besoin de mains. Même question, docteur Gilles Huberfeld. Est-ce qu'en euros, certains sont aussi allés prêter main forte aux services en tension ?
Oui, tout à fait. Il y a une redistribution. J'ai l'impression, moi, par exemple, moi, je me suis porté volontaire et j'ai pas été appelé, donc j'attends. J'ai l'impression que actuellement, dans des gros hôpitaux comme les nôtres, il y a probablement plus une dette de main d'œuvre infirmière que médicale, en sachant que l'activité médicale est très spécialisée, c'est celle de la réanimation. On s'invente pas réanimateur.
Par contre, il y a besoin de toutes ces mains, de tous ces soins que peuvent prodiguer des professionnels de la santé, même s'ils n'ont pas directement la spécialité.
Tout à fait, clairement. Et puis, il y a un certain nombre de tâches qu'on peut effectuer. Voilà. Mais pour ouvrir des lits, ce qui est important, c'est qu'on a besoin en fait d'un quorum minimal de professionnels pour que ça puisse fonctionner. Et du coup, il y a des fonctionnements en palier, en quelque sorte, en marche d'escalier, pour pouvoir amplifier la réponse à la demande.
Docteur Gilles Huberfeld, dans votre spécialité, la neurologie, est-ce que certains patients, d'ailleurs certains que vous prenez en charge, sont considérés comme particulièrement vulnérables ?
Alors, il y a un certain nombre de maladies pour lesquelles ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, l'épilepsie, on sait que lorsqu'on a de la fièvre, quand on est infecté, on est un peu plus à même de faire des crises, mais je pense que dans le contexte d'une infection pulmonaire grave à coronavirus, ça passe un petit peu au second plan. Un certain nombre de patients sont plus fragiles, notamment quand ils vont être âgés avec des polypathologies et un certain nombre de tares associées qui vont rendre potentiellement l'infection plus grave, mais généralement ça ne va pas être directement la pathologie infectieuse. Et puis enfin, on a des maladies neurologiques où on va avoir par exemple une altération de la commande centrale de la respiration, et ces patients-là évidemment, seront plus en danger vis-à-vis des pneumonies liées au virus.
Est-ce que certaines atteintes neurologiques sont traitées par immunosuppresseurs et donc peuvent rendre, dans certains cas, les patients plus vulnérables aux infections ?
Un certain nombre d'entre elles, et je crois savoir qu'à ce jour, c'est plus un risque théorique qu'avéré.
D'accord, donc les associations de patients sont restées pour l'instant prudentes sur ce sujet, et en tout cas, pas question d'arrêter ce type de traitement, c'est très important de le dire.
Tout à fait, d'autant plus que c'est probablement plus théorique qu'avéré, et donc il y a effectivement plus de risques à courir de déstabiliser sa maladie de fond avec un certain nombre de poussées qui pourraient survenir que de craindre une infection virale en période de confinement.
Et c'est très important cette question de la poursuite des traitements, parce qu'il y a eu des personnes qui ont pu être alertées. Tout à l'heure, on parlait du bruit médiatique, toutes ces informations qui sont délivrées quasiment en temps réel et qui peuvent être inquiétantes. C'était également le cas pour les corticothérapies. Il y a eu même des communications officielles qui ont pu faire douter certains patients. On peut peut-être même faire une nouvelle mise au point à ce sujet avec vous, docteur Dominique Huette. En matière de prescription de corticoïdes, qu'est-ce qui est aujourd'hui déconseillé ? Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut ou doit être poursuivi, bien évidemment avec l'avis du médecin ?
Alors, deux cas de figure. Premièrement, un patient qui a un traitement au long cours aux corticoïdes, que ce soit pour une maladie de système, pour que ce soit une maladie pulmonaire allergique, il est indispensable de poursuivre son traitement par corticoïdes. Ça, c'est clair et net. Tout le monde a fait passer ce message. Il faut poursuivre son traitement par corticothérapie. Par contre, pour d'autres cas de figure, c'est-à-dire une prise aiguë pour une sinusite, pour des tas d'affections aiguës, la corticothérapie est à l'heure actuelle contre-indiquée. Alors elle est contre-indiquée parce que évidemment elle entraîne une baisse des défenses immunitaires et donc ça va être un facteur aggravant avec un risque de faire plus facilement une infection par Covid-19 grave. Il y a eu également par mesure de précaution en France la demande de ne pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mmh. Qui également peuvent faire baisser les défenses immunitaires. Mais donc, tous les malades qui prennent une corticothérapie au long cours, il est indispensable qu'ils la poursuivent.
C'est très important à faire passer. Professeur Vianney Descroix, on parlait tout à l'heure des soins dentaires qui sont donc complètement suspendus. On imagine, quand il y a un abcès, un risque, il y a des interventions en urgence. Comment ça se passe concrètement? Vous ne pouvez pas quand même travailler dans un scaphandre? Comment est-ce que vous faites?
Alors, on travaille dans un scaphandre, on s'habille de façon les plus efficaces possibles, et puis on va de toutes les façons prendre en charge, que ce soit à l'hôpital ou dans les cabinets de ville, prendre en charge toutes ces infections et toutes ces pathologies urgentes, parce qu'elles ne pourront pas être traitées autrement que par un geste chirurgical. Et on voit aujourd'hui arriver des patients qui ont été mis sous antibiothérapie il y a 3 ou 4 jours ou même une semaine et qui maintenant nécessitent un acte chirurgical. Donc nous allons les réaliser en gardant toutes nos barrières, toutes nos méthodes barrières et toutes nos protections à la fois dans nos gestes et dans nos désinfections de cabinet dentaire.
Alors on comprend bien que des risques de transmission, eh bien, cela concerne les patients également, le personnel soignant. Est-ce que vous diriez, professeur Vianney Descroix, que cela fait régner une atmosphère différente, particulière, quand on soigne ou pas? Ou vous dépassez cela?
Alors, on le dépasse, mais effectivement, les ambiances de soins et de traitements sont complètement différentes. Les gens sont extrêmement concentrés à ce que les soins, d'abord, soient le plus rapides possible, parce que plus ils sont rapides et moins les contaminations sont importantes, parce que les patients eux-mêmes sont à la fois fatigués, ce sont des urgences douloureuses et fatigantes, et puis ils sont eux-mêmes un petit peu inquiets. Donc, il faut qu'on soit extrêmement organisé, comme on sait le faire dans les hôpitaux.
Docteur Dominique Huette, même question que je vous adresse, hein, c'est ce changement d'atmosphère, on a parlé des restrictions de visite, les risques pour les soignants. Est-ce que l'atmosphère à l'hôpital Saint-Joseph où vous exercez, c'est vraiment complètement bouleversé?
Alors, il y a, on a des témoignages hein, qu'on peut voir également dans les émissions de soignants qui, le matin, vont partir en étant un petit peu plus anxieux que d'habitude parce qu'ils vont se rendre dans un hôpital avec un grand nombre de patients infectés, donc un éventuel risque supplémentaire. Mais une fois que les gens vont être, on va dire, sur leur lieu de travail, mmh. ils vont être concentrés sur ce qu'ils ont à faire, ils sont protégés, même si on voit que tous les jours, la liste des personnels soignants infectés s'allonge. Les gens, dès l'instant où ils sont rentrés dans leur travail, il y a un professionnalisme qui est extraordinaire. Et donc, ça dépasse l'anxiété du départ.
Il y a ces merci, hein, ces applaudissements à 20h aux fenêtres des villes de France pour les soignants. Mais il y a aussi l'épuisement, la réalité des conditions de travail. Docteur Gilles Huberfeld, vous sentez cette tension? Vous sentez aussi cet épuisement?
Je pense qu'il y a une double chose. Les gens qui ont choisi de travailler dans les métiers du soin, c'est parce qu'ils avaient un certain nombre de valeurs qui les portaient à cela. Mmh. Et du coup, dans les périodes de crise, les choses se renforcent, évidemment. Et donc, globalement, moi, je suis assez épaté, effectivement, de la façon dont les gens rentrent en ligne de marche, en ligne de guerre, en fait, pour combattre, et puis passent un certain nombre de difficultés pour que ça fonctionne. Et en sachant que nous, en neurologie, et à fortiori dans notre activité, on n'est pas en première ligne, donc c'est beaucoup plus facile. C'est évident, mais déjà là, les gens sont extrêmement investis, évidemment. Alors chez nous, ce ne sera pas forcément plus fatigant que les autres, parce qu'encore une fois, l'activité a plutôt baissé qu'augmenté, mais les conditions sont très particulières.
Professeur Vianney Descroix, par le passé, on avait l'habitude hein, dans Priorité Santé d'échanger avec les auditeurs. On parlait des caries, des gencives, du dentifrice. Aujourd'hui, là, c'est comme une chape, c'est très pesant. Quand on est médecin, peut-être surtout quand on est médecin, est-ce que ça change complètement la façon de voir les choses et de travailler?
Là, aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans des conditions de travail qui sont très différentes des conditions habituelles. Mais encore une fois, on est là aussi pour ça et pour affronter ce type de situation. Et les soins urgents de la bouche vont devoir se faire quoi qu'il arrive. Et on sera là pour les prendre en charge.
On n'est pas là pour tirer des conclusions parce qu'on est encore au cœur de l'action, bien évidemment, mais on a vu déjà tout à l'heure à quel point il avait fallu réorganiser en temps réel. Pour vous, est-ce que ce que l'on est en train de vivre va changer durablement les choses dans ce secteur de la santé en France? C'est ma question de conclusion. Professeur Vianney Descroix, pour vous, ça va changer les choses? On va déjà peut-être, en termes d'organisation, tirer certains enseignements?
On va apprendre beaucoup de ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça c'est indéniable, à la fois dans cette capacité qu'on a de s'adapter, de savoir faire face, et puis sans doute, mais c'est pas encore le moment, tirer d'autres conclusions plus pérennes sur comment mettre en place des systèmes comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui, oui.
On aura des semaines pour y réfléchir. Docteur Gilles Huberfeld, sur ce qu'on vit en ce moment, est-ce que cela vous a déjà appris? Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Moi, je suis d'un naturel pessimiste, et donc je pense que les choses ne changeront pas assez. Et puis, d'un autre côté, je me trompe souvent.
C'est le bon côté des choses. C'est pour nous faire garder le sourire. Mais malgré tout, il y aurait des choses à changer, des choses à améliorer. Si jamais vous aviez une crise d'optimisme, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, j'irais me coucher. Non, je pense que on a arrêté de réfléchir en tant que médecin sous l'angle des potentielles pandémies. Et de manière intéressante, je pense que c'est plus des stratèges que des médecins qui ont gardé en tête que ça pouvait arriver. Donc ça doit nous réveiller. Il faut rester ouvert. Personnellement, j'ai comme beaucoup de mes confrères pensaient que ça ne serait pas grand-chose au départ, et on s'est lourdement trompé, il faut apprendre de ça. Et ensuite, à l'hôpital et dans les soins globalement, il y a un certain nombre de processus qui se sont mis en place pour lutter spécifiquement contre cette situation qui pourrait perdurer, ne serait-ce que vu les consultations à distance, des schémas d'organisation et ainsi de suite, qui doivent pouvoir nous aider par la suite. Et puis, ça doit nous apprendre à rester plus ouverts aux drames de ce monde qui peuvent arriver.
Docteur Dominique Huette, quand vous entendez dire qu'il y aura un avant et un après cette crise sanitaire, qu'en pense l'homme d'expérience, le soignant et le citoyen?
Alors, en tant que soignant, je suis très attentif à ce qui va se passer ensuite. Il est clair que on devra tirer des leçons. On a l'impression de voir en ce moment la nécessité d'une décentralisation. On voit que quand les dispositifs sont pris à l'échelon d'un hôpital, c'est relativement plus facile d'aller modifier rapidement la structure. Donc ça, c'est un premier point, des leçons à tirer. Maintenant, notre président a prévu des mesures...
Pour l'hôpital, il nous reste quelques secondes.
L'hôpital, il faut voir ce vont être ces mesures très fortes. Est-ce qu'on va nous donner 3 milliards ou est-ce qu'on va vraiment, ce qui est une goutte d'eau, ou est-ce qu'on va reconsidérer en particulier les salaires des personnels paramédicaux qui restent, à mon avis, scandaleux et qu'on ne pourra pas ensuite se suffire d'applaudissements.
Absolument, et donner davantage de moyens à toutes celles et ceux qui ne comptent pas leurs heures et qui prennent des risques aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Docteur Dominique Huette, docteur Gilles Huberfeld et professeur Vianney Descroix. Et on remercie l'équipe du jour. C'est Toussa Maki, Ophélie Lassen, Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, on va parler des relations familiales en période de confinement. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Si vous avez un témoignage, la page Facebook. Et d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains. Et en zone de confinement, restez chez vous.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous, à chaque étape. Autour de la question.